Bonjour, l'invité de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM, est Azadeh Kian, professeur de sociologie à l'Université Paris-Cité, directrice du CREDEF et des cahiers du CREDEF, le centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes, autrice de Femmes et pouvoir en islam, paru aux éditions Michalon. Azadeh Kian est intervenue dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « Iran, quels sont les impacts sociologiques et culturels de la révolution en cours ?»
Qu'est-ce qui caractérise une révolution ? Qu'est-ce qui la définit ?
J'ai utilisé ce terme « révolution » non pas pour dire qu'il y a une révolution actuellement, mais j'ai parlé d'un processus révolutionnaire tout simplement, pour distinguer ce qui se passe à l'heure actuelle avec les mouvements sociaux précédents en Iran depuis 2009. Il y en a eu au moins 3 autres mouvements sociaux. Pour moi, la révolution, c'est le changement de l'ordre social. Voilà. Et ce changement d'ordre social est en cours actuellement en Iran. En tout cas, ce changement est revendiqué par des pans entiers de la population impliquée dans cette révolution en cours. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la révolution ou que ce changement d'ordre social est pour demain. Mais je vois ça à moyen ou à long terme d'ailleurs. Donc la révolution, ça veut dire le changement des structures, le changement des rapports de pouvoir et le changement donc de l'ordre social établi sur des hiérarchies sociale, de classe, de genre, d'ethnicité, de religion en Iran. Et j'explique pourquoi est-ce que cette hiérarchie sociale est fondée, quelle est la différence actuellement avec, par exemple, l'époque du Shah d'Iran avant la révolution de 79. Cette hiérarchie sociale sous le régime des Pahlavis était surtout fondée, à mon sens, sur le nationalisme iranien, qui était plutôt le nationalisme perse, fondé sur l'appartenance à l'ethnie perse, qui est l'ethnie majoritaire en Iran, et sur la langue persane, mais en aucun cas sur la religion. Tandis qu'après la révolution, cette hiérarchie sociale est surtout fondée, à mon sens, sur la religion chiite et bien évidemment tout ce qui va avec, c'est-à-dire le patriarcat. Du coup, les minorités qui sont ethniques et pas chiites sont discriminées, c'est-à-dire des pans entiers de la population iranienne, puisque en Iran, il y a une forte minorité sunnite, comme les Kurdes, comme les Baloutches, comme les Turkmènes, par exemple, entre autres, qui, du fait de leur non-appartenance au monde chiite, ont été dès le départ discriminés et continuent à l'être. En parallèle, bien sûr, les femmes, puisque le régime islamique est fondé sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Entre les chiites et les sunnites, les chiites et les non-musulmans, en Iran, il y a aussi une minorité de chrétiens, de juifs et de zoroastriens. Donc pour moi, ce qui est en train de se passer actuellement sur place en Iran, c'est une solidarité, pour ne pas dire une alliance, entre toutes ces minorités religieuses, ethniques, de genre également, contre le régime en place qui ne représente qu'un patriarcat chiite.
Le vendredi 16 septembre 2022 à Téhéran,
Gina Mahsa Amini, une jeune femme kurde, vient à Téhéran visiter la capitale aux côtés de sa famille. Et quand elle s'est fait arrêter pour avoir mal porté le voile islamique, elle était avec son frère Il s'est fait embarquer par la police des mœurs qui veille à ce que les femmes et les hommes d'ailleurs respectent les préceptes islamiques du régime. Il se fait embarquer, est emmené au poste et là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle se fait tabasser là-bas. Elle fait une hémorragie cérébrale. Elle décède 2-3 jours plus tard à l'hôpital, le 16 septembre. Il y a 2 journalistes femmes qui vont aller à l'hôpital, vont filmer les parents de Gina Massa qui étaient venus au chevet de leur fille. Ces 2 journalistes aussi sont arrêtés et au jour d'aujourd'hui toujours emprisonnés juste pour avoir fait leur travail journalistique. Le décès de Gina, ce que j'appelle l'assassinat de Gina Mahsa Amini, était pour moi une goutte qui avait fait déborder le vase parce que c'est dans le contexte des mouvements sociaux précédents, des mécontentements. Et avant Gina, on avait vu aussi d'autres femmes très mal menées par cette police de mœurs qui, depuis l'arrivée au pouvoir de Raïssi, cet ultra-conservateur qui, ne l'oublions pas, était membre du comité de la mort. La police des mœurs, des gardiens de la révolution, des Basiges, ont reçu vraiment la carte blanche pour réprimer tous ceux et toutes celles qui ne respectent pas les préceptes du régime ou qui sont opposants. Et donc, ils tabassaient à même la rue des femmes qui ne portaient pas bien le voile ou qui ne portaient pas du tout le voile. Et donc, ces scènes-là, on les avait déjà vues à maintes reprises. Et donc, le mécontentement était grand aussi au plan économique, au plan social, politique. Et donc, lorsque Gina Mahsa est tuée, ce sont des gens qui prennent les rues d'abord à Sarrez, donc la ville kurde qui est sa ville natale, où des milliers de gens descendent de façon spontanée manifester, où des femmes donc enlèvent leur voile en signe de protestation, et puis après suivies à Téhéran et dans d'autres villes par énormément de femmes et de jeunes femmes, soutenues par des hommes et des jeunes hommes en particulier, et en signe de protestation, parce que nous on a ça dans l'histoire iranienne, quand on est en deuil, les femmes qui étaient en deuil coupaient leurs cheveux. Donc voilà, en signe de deuil, bon, elles enlèvent leur voile, elles le jettent et puis elles coupent aussi leurs cheveux en signe de protestation. Et ça devient un mouvement répandu parce que cette fois-ci, vous savez, Gina, c'est qui ? Gina, c'est une femme, c'est une jeune femme. En même temps, elle est kurde, en même temps, elle est sunnite. Donc c'est-à-dire qu'en elle-même, elle vraiment rassemble les 3 rapports sociaux, au moins, c'est-à-dire genre, c'est-à-dire ethnicité, c'est-à-dire religion. D'accord ? Et classe sociale aussi un peu, parce que bon, elle appartient à la classe moyenne inférieure, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est important que je le dise quand même, 2 semaines plus tard, il y a une jeune fille baloutche qui se fait violer par la chef de police de sa ville, Chorbahor. Elle aussi, elle est jeune, elle est femme, jeune femme, elle est baloutche, donc minorité ethnique, et elle est sunnite, minorité religieuse. Donc elle aussi. Et vous voyez que ce mouvement qui a commencé au Kurdistan et au Baloutchistan s'est répandu assez rapidement à travers le pays. Ça veut dire quoi ? Pour la première fois dans l'histoire de l'Iran, les autres Iraniens qui sont ni kurdes, ni sunnites, ni peut-être femmes, s'identifient avec ses victimes. Et en fait, je veux dire, la mort de Gina et le viol de cette jeune fille baloutche deviennent en fait des illustrations de la répression du régime et du caractère, si vous voulez, de ce régime anti-minoritaire de tout point de vue. Et donc, il y a une solidarité qui se crée assez rapidement parmi la population, y compris et surtout, je dirais, pour des femmes, surtout pour des femmes pour lesquelles l'égalité entre les hommes et les femmes est vraiment l'abécédaire de la liberté, l'abécédaire de la démocratie, mais également solidarité avec les minorités ethniques et religieuses du pays. Et donc ça, c'est pour la première fois qu'on est face à l'illustration de l'imbrication des rapports sociaux autour desquels des pans entiers de la population iranienne se rassemblent, se sentent solidaires contre le régime. Donc c'est un caractère inédit, raison pour laquelle, encore une fois, moi je peux me permettre de l'appeler une révolution en cours, parce que c'est une révolution contre l'ordre social établi, contre cette hiérarchie sociale établie par le régime islamiste.
Ça va jusqu'à penser la laïcité ?
Oui, absolument. Alors jusqu'à très récemment, la laïcité était revendiquée par l'intelligentsia iranienne. Aujourd'hui, la laïcité est revendiquée par des pans entiers de la population dans le sens de la séparation de la religion et de l'État, parce que l'islam politique est au pouvoir en Iran depuis les 44 dernières années et les gens ont bien expérimenté, ont bien vu ce que ça donne une fois la religion au pouvoir. Et donc, effectivement, aujourd'hui, la laïcité est revendiquée par des pans entiers de la population. population. On ne veut pas l'interférence de la religion dans les affaires publiques, etc. Et même d'autres religieux. Par exemple, je vous donne l'exemple de Molavi Abdelhamid, qui est l'autorité religieuse sunnite la plus importante de l'Iran, qui est Baloutch, et qui tous les vendredis préside la prière de vendredi à Zaïdan, le chef-lieu de Baloutchistan. Et après, des milliers de gens manifestent dans la rue, et ce depuis l'année dernière. Ça n'a jamais cessé. Vous savez que la majorité des personnes aussi qui ont été tuées l'année dernière sont soit Baloutches, soit Kurdes. La majorité écrasante. Et donc, même lui, Molavi Abdelhamid, revendique la laïcité dans ses prêches de vendredi. Il dit séparation religion de l'État. Du coup, c'est devenu vraiment une revendication. D'autant qu'on était déjà face à la sécularisation de la société iranienne. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que ça se passe. Encore une fois, ça a commencé il y a longtemps. Mais aujourd'hui, en termes de revendication qui est propagée au sein de la population, effectivement, il y a aussi la laïcité, il y a la démocratie, il y a la liberté. D'ailleurs, si vous regardez les slogans qui ont été chantés pendant de nombreux mois, pendant les manifestations, dans les campus des universités, dans la rue, etc., il y a la démocratie, il y a l'égalité homme-femme, il y a la solidarité avec le Kurdistan et le Baloutchistan, etc., et il y a la laïcité.
Azadeh Kian est l'invité de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Sur le mouvement Femmes, Vie, Liberté, il est quantifiable ce mouvement ?
Écoutez, il n'est pas quantifiable. Moi, je n'ai aucun moyen de quantifier ça. Ce que je peux dire, c'est qu'au regard de l'ensemble des enquêtes que j'ai menées en Iran dans les années précédentes, j'avais déjà vu ça il y a encore 10 ans. Je voyais que la jeune génération, très bien formée, même des filles dans les villages, vont à l'école, ensuite au lycée pour beaucoup. L'âge au premier mariage a beaucoup reculé en Iran, en dépit des lois. Les jeunes femmes ne souhaitent pas avoir beaucoup d'enfants. Vous savez que le nombre moyen d'enfants par femme n'est que de 1,6 aujourd'hui. Donc les jeunes ne veulent plus avoir beaucoup d'enfants parce qu'elles font des études, parce qu'elles aspirent aux activités sociales, elles aspirent aussi à travailler, à gagner leur vie, à être autonomes. Mais en même temps, l'importance des réseaux sociaux n'est pas négligée parce que depuis les quelques, au moins la dernière décennie, on est face à une propagation sans précédent d'Internet en Iran et aussi des réseaux sociaux. Et donc, beaucoup de gens ont accès à ces réseaux, même s'il y a de filtrage, et peuvent effectivement connaître ce qui se passe vraiment à l'échelle mondiale. Et donc ça a beaucoup aussi participé au changement de comportements sociaux et culturels de cette population, en particulier jeune. Et donc, je dirais que les revendications pour le changement est très grande et ça concerne une bonne partie de la population féminine en Iran. Après, il y a une question générationnelle, bien évidemment. Par exemple, je sais qu'au sein des familles religieuses, traditionnelles même, il y a des discussions entre les jeunes femmes qui ne souhaitent plus porter le voile et la génération des mères religieuses traditionnelles qui quand même continuent à leur dire qu'il faut quand même le porter, etc. Et même dans les villes très religieuses comme Rome, qui est l'équivalent de Vatican iranien, on voit aussi ces discussions en cours et donc le refus des jeunes filles d'obéir. C'est-à-dire que la désobéissance civile s'est aussi répandue au sein même des filles issues des familles religieuses et traditionnelles. Donc ça en dit long sur ce processus en cours. Et ça montre que la réalité sociale de la société iranienne est vraiment incompatible avec un régime qui est moyenâgeux, avec ses institutions moyenâgeuses. En fait, c'est une gérontocratie. Le régime islamique d'Iran prenait quand même des hommes au pouvoir. La moyenne d'âge aujourd'hui est autour de 80 ans. Alors que l'âge moyen de la population avoisine les 34 ans. Donc, bien évidemment que ça crée aussi beaucoup, beaucoup de contradictions et de rejets de part de cette majorité de la société vis-à-vis du régime aussi.
Azadeh Kian est l'invité de Rien à voir, magazine de la rédaction d'Alternante FM.
Pour répondre à la question « Quels sont les impacts sociopolitiques et culturels de la révolution en cours ?» qu'est-ce qu'on pourrait mettre en résumé en avant ?
Je pense que les impacts sont vraiment importants et inédits, à commencer par la revendication pour la laïcité, pour mettre fin à l'islam politique, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour l'égalité entre les minorités et la majorité ethnique religieuse. Donc tout ça montre une conscientisation, je dirais, des pans entiers de la population, aussi des discriminations subies à la fois par les femmes, par les minorités ethniques religieuses pendant toutes ces années, mais également des revendications pour la justice sociale, c'est important à le souligner aussi, c'est-à-dire une meilleure répartition de la richesse nationale. C'est 1% de la population proche du pouvoir et au sein du pouvoir qui s'est accaparé de la richesse nationale est vraiment rejeté par la majorité écrasante de cette population qui aujourd'hui a du mal à survivre parce que les gens savent que le pays est riche et savent que l'argent est là. Et savent aussi que l'argent n'est pas dépensé pour leur bien-être. Donc je pense que ce sont des conséquences sociopolitiques, culturelles et économiques de cette révolution en cours déjà. Autre chose qui est très importante, c'est aussi la volonté des jeunes femmes de contrôler leur corps, raison pour laquelle elles refusent de se soumettre au diktat du régime pour, par exemple, porter le voile ou porter le manteau long, etc., etc. Tout ça montre que cette jeunesse aussi aspire à cette volonté, si vous voulez, de contrôler son corps, contrôler sa sexualité. Donc il y a tout ça, ce sont disons des phénomènes qui sont relativement, je dirais, nouveaux pour cette société. Raison pour laquelle c'est intéressant et important quand on voit par exemple les images des filles qui malgré la loi et malgré la répression continuent à refuser de porter le voile obligatoire ou dansent dans la rue quitte à se faire arrêter 2 heures plus tard. C'est pour dire mon corps m'appartient et de revendiquer la liberté à travers la libération de leur corps. Il faut comprendre ça, c'est vraiment important.
Merci à Azadeh Kian, autrice de « Femmes et pouvoir en islam » paru aux éditions Michalon, pour sa libre participation à ce numéro de « Rien à voir », magazine de la rédaction d'Alternante FM. Azadeh Kian est intervenue en septembre 2023 dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « Iran, quels sont les impacts sociologiques et culturels de la révolution en cours ? »
Aujourd'hui, pour effectuer vos recherches, comment vous travaillez ?
Moi, je ne peux plus aller en Iran, mais bon, déjà, j'ai toujours des contacts sur place, étant moi-même d'origine iranienne, à la fois la famille, à la fois des collègues, et aussi des personnes qui collaborent avec moi au plan de recherche, etc., qui sont là-bas, qui sont en Iran. Après, il y a d'autres sources de connaissances. Alors, c'est très difficile pour une sociologue de ne plus pouvoir aller sur le terrain et voir la population. Ça, c'est vraiment important. Donc, en fait, ce que je fais, j'ai les témoignages et je peux demander à d'autres personnes de faire des entretiens pour moi. Je ne veux pas aller plus loin que ça, mais je peux envoyer des questionnaires et dire est-ce que tu peux ou vous pouvez poser des questions. Est-ce que vous pouvez aller observer telle ou telle chose ? Mais ça, par rapport à ce que je faisais avant moi-même pendant 15 ans, où j'allais sur le terrain tout le temps, et donc j'étais dans le bain, comme on dit, ce n'est pas pareil du tout. Du coup, comme je ne pouvais plus aller en Iran, cela fait quelques années que je vais en Turquie. Parce que voisin de l'Iran, parce qu'il y a beaucoup de choses à comparer aussi avec l'Iran. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler depuis 2012 sur les mouvements des femmes en Turquie. Là aussi, il y a des choses intéressantes à voir et à dire. Il y a des ressemblances et beaucoup de différences aussi avec l'Iran. Voilà. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que j'essaye aussi de changer à la fois le terrain. Je vais là où je peux faire des enquêtes, d'une part. D'autre part, là, par exemple, j'ai un projet à venir qui concerne la diaspora. Donc là où je peux aller dans différents pays où réside la diaspora pour mener mon projet.